France Inter. Frédéric Métaisot. Le 6-9 de l'été.
Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Ministre du Travail, invité du grand entretien de France Inter. Avant d'aborder les grands dossiers liés à l'emploi ou à la formation professionnelle, un dossier qui vous concerne, qui pourrait vous concerner. Selon le Canard Enchaîné, Muriel Pénicaud, des juges d'instruction veulent enquêter sur un contrat qui avait lié Havas et Business France. Business France, c'est la structure que vous dirigez avant d'être ministre. Les juges se demandent s'il n'y a pas eu de favoritisme pour un contrat de 13 200 000 euros en faveur d'Havas qui aurait remporté ce marché, donc dans des conditions pas forcément très claires d'après le Canard Enchaîné. Vous étiez en fonction en 2015, Muriel Pénicaud.
Alors, ça fait 15 mois que je suis ministre du Travail. Ça fait 15 mois qu'il y a des rumeurs, des suppositions, des choses fausses. J'ai pris l'habitude, je pense que je vais la garder, je suis même sûre, de jamais commenter les rumeurs qu'il y a dans la presse. Moi, je suis entièrement dédiée à ce que je fais. Le premier projet de loi, les ordonnances travail. Le deuxième, sur la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est ça qui m'intéresse. Le reste...
Mais les mails, par exemple, publiés par le Canard Enchaîné, qui montrent une proximité entre vous et Stéphane Fuchs, le patron d'Havas, au moment où il y avait un appel d'offres, ça peut pas instiller le doute dans l'esprit même des juges d'instruction?
C'est le principe des rumeurs, d'instiller le doute.
Mais les mails existent.
Je rentre pas, je vous l'ai dit, je commenterai pas, je l'ai jamais fait, je commenterai pas ce genre de choses. Voilà, c'est tout.
Bon, bah, dont acte. On verra quelle est la décision du procureur de Paris, François Molins.
C'est, oui, on a déjà vu qu'il y a beaucoup de choses
des juges d'instruction. Muriel Pénicaud, mercredi, après-demain, le Parlement doit voter en vote solennel à l'Assemblée une loi, le deuxième volet des lois Pénicaud. Il y avait eu le premier volet, c'était libérer le travail. Il y a le deuxième volet qui est appelé protéger. D'abord, il fallait vraiment libérer le travail. On a libéré le travail et pourtant, c'est le chômage qui est libéré, plus 0,2% au deuxième trimestre 2018.
Alors, ça, c'est pas le chômage, c'est la demande d'emploi, mais je rentre pas dans les détails. C'est le nombre de demandeurs d'emploi, c'est pas forcément le nombre de chômeurs. Mais le plus important, c'est comment on lutte contre un chômage de masse qui s'est installé depuis 20 ans en France. Notre stratégie est en trois points. Outre les mesures économiques et fiscales, dans le champ du travail, le premier, c'était libérer le travail. Et oui, les entreprises recrutent, les PME disent qu'elles n'ont jamais eu autant confiance et que maintenant, elles n'ont plus peur d'embaucher. On a plusieurs centaines de milliers d'emplois aujourd'hui où les entreprises, regardez, il y en a partout des annonces d'offres d'emploi. Donc ça, le premier sujet, c'était libérer le travail et la confiance des entreprises pour embaucher. Le deuxième, c'est ce projet de loi, la liberté de choisir son avenir professionnel. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont qualifiés, et il y a très peu de chômage, il y a quasiment plus de chômage des cadres en France. Par contre, ceux qui n'ont pas de qualification, ce n'est pas à 9% de chômage qu'ils sont, c'est à 18%.
Quasiment
et s'ils habitent en plus un quartier prioritaire de la ville, ça va être double, ou s'ils sont jeunes. Donc on a un vrai sujet de monter en compétences par l'apprentissage, par la formation professionnelle, pour protéger chacun contre le chômage, et aussi pour gagner la bataille des compétences mondiale.
C'est comme
ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est l'inclusion des plus vulnérables. Parce que pour certains, la qualification va suffire. Pour d'autres, il faut aller chercher plus loin. C'est pour ça que dans le projet de loi, il y a des mesures, par exemple, pour aider, pour permettre aux personnes handicapées qui ont beaucoup à apporter au monde du travail, enfin, d'accéder au marché du travail. Il y a 500 000 personnes handicapées chez Pôle emploi, mais elles ont plein de choses à apporter. C'est pour ça aussi que l'égalité professionnelle homme-femme, qui est dans le projet de loi, va permettre de développer. Et puis, c'est pour ça que dans le plan d'investissement compétences, il y a un gros volet inclusion, les entreprises adaptées, les associations intermédiaires. Il faut aider chacun. Moi, je crois que nul n'est inemployable. Mais il faut lui donner la chance de le montrer.
Mais alors, comment t'expliquer, Muriel Pénicaud, cette hausse du nombre de demandeurs d'emploi, plus 0,2 au second trimestre?
Je pense qu'il y a les réformes, comme on dit, structurelles, c'est-à-dire qui transforment le pays, qui préparent l'avenir. On l'avait dit dès le début, elles n'ont pas des effets en trois mois.
Il faut elles ont un an, empile, les ordonnances.
Oui, et les ordonnances ont un empile, c'était en septembre. Les décrets d'application, c'est le 31 décembre. Et il faut, les réformes structurelles, c'est 18 mois, 2 ans, 3 ans pour avoir les pleins effets. La loi sur la formation, elle sera votée mercredi.
Après-demain.
Elle n'est pas encore en application. Donc, je crois que ce qui est transformer le pays, préparer l'avenir, ça prend du temps. Et je comprends l'impatience de chacun, parce que quand on est au chômage, on veut pas et on peut pas attendre. Mais cette partie-là prend forcément du temps. C'est pour ça qu'en même temps, on a lancé ce grand plan d'investissement compétences. Et là, on a la capacité de former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi dans l'immédiat, pour que tout de suite, ils puissent saisir les opportunités du marché du travail qui est là. Et il y a des employeurs qui cherchent et qui ne trouvent pas.
On va s'intéresser au contenu de cette loi Avenir professionnel qui est donc votée solennellement, normalement, à l'Assemblée mercredi prochain. On va commencer dans l'ordre théorique d'une carrière. D'abord, le volet apprentissage. Oui. Les grands plans d'apprentissage passent du niveau des régions, vont passer au niveau des régions à celui des branches professionnelles. Il y a plusieurs élus régionaux qui disent attention, on est dépossédé, c'est une recentralisation. D'autres sont plus attentistes, comme Xavier Bertrand. Lui, il demande au gouvernement de faire preuve de pédagogie et d'expliquer pourquoi ce serait mieux au niveau des branches. Alors, pourquoi ce serait mieux au niveau des branches ?
En fait, on n'a pas transféré des régions aux branches. On a transféré d'un système malthusien administré à aux jeunes et aux entreprises. Et les branches ont leur rôle à jouer, par exemple, pour la définition des diplômes avec l'État. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a un système qui est d'abord d'une complexité inouïe, comme souvent en France. Par exemple, les entreprises, les PME, qui sont celles qui embauchent le plus de jeunes apprentis, il y a aujourd'hui 4 aides dans 3 guichets. Bref, elles ne le demandent pas, elles ne savent même pas que ça existe pour certaines. Donc, on va faire une chose simple pour toutes. Pour les jeunes, aujourd'hui, jusqu'à la promulgation de la loi, on ne peut pas aller au-delà de 26 ans en apprentissage. L'intérêt d'aller à 30 ans, c'est quoi ? Il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'université, qui ont un peu erré, qui ont cherché leur voie, ils trouvent et manquent de chance, ils n'ont plus l'âge. Ou bien,
c'est pour ça que vous reculez l'apprentissage jusqu'à 30 ans désormais.
Et un autre avantage, c'est que on peut aller. L'apprentissage, c'est quoi par rapport à la forme scolaire ou universitaire classique ? C'est qu'on fait pour apprendre, au lieu d'apprendre et un jour d'appliquer.
Et on apprend dans l'entreprise la moitié de son temps.
La moitié environ. De son temps ou les deux tiers,
les
ça
deux
dépend
tiers,
des formules.
Ça dépend, oui.
Mais on peut aller du CAP à l'ingénieur. On prépare les mêmes diplômes en étant rémunéré, en ayant une expérience. Mais pour ça, si vous voulez passer du CAP au bac pro, du bac pro au BTS, BTS ingénieur, vous allez vite vous retrouver à 26 ans pour certains. Donc c'est important d'ouvrir ça. Donc en fait, on ouvre tout ce qui bloque. Et le débat avec les régions, c'est que jusqu'ici, les régions avaient le droit d'ouvrir ou fermer ou de ne pas ouvrir un CFA. C'est pour ça qu'une partie de l'argent de l'apprentissage n'allait pas à l'apprentissage. Là, tout ira à l'apprentissage et donc on n'a plus de limite pour développer les centres de formation.
Il n'y a pas un risque de recentralisation, de centralisation.
L'État ne reprend aucune compétence.
Mais de centralisation via les branches professionnelles qui risqueraient, d'après les élus régionaux, de décider ça ensemble à Paris plutôt qu'au niveau régional.
Moi, je suis très pragmatique. On est le seul pays européen du Nord, du Centre, qui n'a pas réussi à développer l'apprentissage. On est le seul qui a 1 300 000 jeunes qui sont sans emploi, sans qualification, sans perspective d'avenir. Comment on peut être à 20 ans et pas se projeter dans l'avenir ? C'est dramatique pour les jeunes, angoissant pour les familles, mais c'est dramatique pour la société aussi et pour les entreprises. Eh bien, moi, je dis qu'on doit donner sa chance à l'apprentissage et qu'on ne peut pas le bloquer parce que c'est... peu importe, il faut la compétence de tout le monde. Il faut les régions à bord, mais il faut les branches. Il n'y a pas un pays européen qui a réussi sans que les branches professionnelles et les entreprises soient à bord. C'est du bon sens.
Deuxième étape d'une carrière professionnelle, la formation professionnelle. Donc là, c'est les salariés qui sont déjà en entreprise. Jusqu'ici, on avait un crédit d'heure. Désormais, ça va passer à un crédit en euros. Vous pouvez nous dire, par exemple, je dispose de 30 heures de formation professionnelle. Ça va me donner combien d'euros ?
Oui, parce que ça sera multiplié par 14,24 euros de l'heure. Mais aujourd'hui, vous croyez que vous avez des heures. Alors, vous avez des heures sur le papier.
Oui, je les ai.
Vous les avez. Oui, mais pour qu'elles deviennent de la formation. Les organismes de formation ne sont pas payés en heures, vous en conviendrez. Il faut que vous trouviez un organisme qui accepte de convertir vos heures en euros. Eh bien, beaucoup de salariés ne trouvent pas. L'organisme paritaire dit que ce n'est pas prioritaire, vous n'entrez pas dans nos cases. Et donc, aujourd'hui, un salarié qui a des heures, il ne peut pas forcément aller en formation néanmoins. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a assez peu de salariés qui l'utilisent, alors qu'il y a plus de demandeurs d'emploi.
Mais il y a un autre effet pervers.
Donc,
si je dispose d'un
budget... En
euros,
c'est vous qui allez pouvoir décider.
Oui, mais si je dispose d'un budget, mais que la formation coûte plus cher que ce budget, alors que précédemment, j'avais les heures nécessaires.
Alors déjà, aujourd'hui, les deux tiers des formations... On parle que de formations longues, qualifiantes, qui préparent un diplôme, un titre.
C'est pas une journée comme ça.
C'est pas une journée. C'est des choses qui... Vous avez à la fin un diplôme, un titre professionnel reconnu. Aujourd'hui, donc un, vous pouvez pas décider. Demain, vous déciderez. Vous aurez sur votre appli, sur Internet, vous aurez la comparaison de tous les coûts des formations. Si vous êtes intéressé par une formation, je ne sais pas, de conducteur routier, on en cherche 23 000 en France. Hein, donc voilà. Et ben, vous allez trouver où sont les formations près de chez vous. Vous allez pouvoir la payer. Alors ça, ce type de formation, comme le TOEIC pour l'anglais, mais presque toutes les formations qui sont demandées, c'est des diplômes, tout ça. La plupart de ces formations rentrent tout à fait dans le cadre du crédit. En tout cas, avec 500 euros par an, 800 pour les non qualifiés, au bout de 10 ans, ça vous fait 5 000 ou 8 000 euros. Mais, et pour ceux qui veulent une formation encore plus longue, encore plus coûteuse, on a gardé un système qui s'appelle le compte personnel de formation transition, à la demande des partenaires sociaux, c'est leur suggestion, c'était dans leur négociation, qui permet de compléter, là il y a une enveloppe gérée de façon mutualisée, qui permet de compléter pour ceux qui ont besoin. Donc moi ce que j'attends de cette loi, c'est tout d'un coup, vous savez on a toujours dit la formation tout au long de la vie c'est bien, c'était un peu un slogan, et maintenant ça devient vital pour chacun, parce qu'on voit bien que les métiers ils évoluent tous, il n'y a pas de métier qui n'est pas touché par le numérique.
À condition d'être remplacé quand on s'absente d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas.
Oui. Et puis il faut pouvoir se former tout au long de la vie, ça devient essentiel pour chacun. Pour les chômeurs, c'est la clé pour trouver un emploi durable, sinon on est condamné aux emplois précaires et mal payés. Et puis pour les entreprises, c'est le nerf de la guerre, le capital humain pour réussir.
Muriel Pénicaud, invitée du grand entretien de France Inter, la ministre de l'Emploi qui va répondre à vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
La ministre va boire un petit peu d'eau, le temps d'accueillir Denis au standard. La ministre boit un peu et vous écoute. Bonjour Denis.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Le CDI d'intérim n'est-il pas plus de précarité ou un cadeau fait aux gens, parce que ce sera pour des CDI de mission, c'est-à-dire qu'après la mission... peut-être qu'il y aura d'autres missions, mais s'il n'y a pas de mission, il fait quoi? Il se retrouve au chômage, de toute façon.
Merci Denis de votre question. On va réexpliquer rapidement. Le CDI d'intérim, ça avait d'abord été mis en place, comme son nom l'indique, par les entreprises d'intérim. Il va être étendu à l'occasion de ce texte qui sera voté après-demain, Muriel Pénicaud. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en CDI d'intérim, mais qu'on n'est pas affecté à une mission? On est quoi? On est au chômage? Non. On n'est pas indemnisé? On n'est pas payé? On en est où?
Alors le CDI intérim qui concerne à peu près 20 000 personnes en France, qui va être prolongé parce que l'expérience a été positive, c'est justement c'est une personne, du coup elle est embauchée par la société d'intérim en CDI, et c'est la société d'intérim qui doit lui trouver les missions. Ça veut dire que si pendant les périodes où elle n'a pas de mission, bah soit elle est en formation, soit elle est payée par l'entreprise intérim. Alors, c'est pas un modèle pour l'emploi, mais dans la palette des outils, c'est mieux d'être en CDI intérimaire qu'en intérim tout court. Et monsieur a raison de souligner un point. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'aujourd'hui, on a un taux d'emploi précaire, c'est-à-dire de CDD et d'intérim, qui est très élevé.
85% des embauches se font en CDD.
Et là, c'est pas une fatalité, parce qu'on voit, vous savez, dans le même secteur, il y a des entreprises qui ont un recours beaucoup plus grand au CDD et d'intérim. C'est devenu une sorte de gestion des ressources humaines chez certaines entreprises très externalisées.
C'est optimisé pour.
Et ça, c'est pas l'intérêt des salariés qui se retrouvent en précarité, comme on fait des projets de vie hein, quand on est en précarité indéfinie, mais c'est aussi, je pense que ça coûte cher à la collectivité, puisque ces entreprises, finalement, se font payer la précarité par les autres. Ça coûte 8 milliards d'euros à l'assurance chômage, le système. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé dans le projet de loi, et on va continuer à la rentrée avec les partenaires sociaux pour améliorer les règles, pour qu'elles ne poussent pas et n'encouragent pas finalement une installation dans la précarité permanente ou un recours à la précarité permanente, parce que je crois que le CDD ou l'intérim, c'est bien quand c'est un tremplin vers un emploi plus durable. Quand on est condamné à vie à l'emploi précaire, je pense que c'est pas le modèle qu'on veut.
Ça veut dire une taxation de ces contrats précaires?
Alors, c'est pas le contrat qu'il faut taxer, c'est le fait que l'entreprise remet les gens au chômage. Il y a des entreprises qui prennent un CDD, par exemple, et puis après qui embauchent. On s'est dit, c'est très bien, ça pose pas de problème. Mais quand 70% des CDD c'est retour à l'assurance chômage et retour chez le même employeur après, on peut penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et on va durcir au niveau de l'entreprise ou au niveau du tantôt salarié, tantôt chômeur ?
Alors, on va là...
Parce que lui, il ne choisit pas. Ou elle ne choisit pas cette situation-là.
Dans la grande majorité, il ne choisit pas. Il y a des cas où il y a aussi des salariés qui préfèrent rester pour une période de leur vie.
Des permittents, comme on dit.
Voilà. Mais disons, en majeure
partie,
c'est une minorité.
Donc on va durcir à quel niveau ?
Et donc, ça fait partie de la feuille de route qu'on va discuter avec les partenaires sociaux à la rentrée, comment on améliore les règles, sachant que dans le projet de loi, il y a déjà cette idée de bonus-malus, c'est-à-dire de pénaliser les entreprises qui, en permanence, remettent la même personne au chômage et qui, finalement, font payer par l'assurance chômage
un
manque d'agilité interne qu'elles n'ont pas trouvé.
On retourne au standard. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour. Voilà, je voudrais poser la question suivante. Bonjour, Madame Pénicaud. Je voudrais vous poser la question suivante. Voilà, je suis depuis 11 ans AVS, j'ai donc auxiliaire de vie et je travaille pour l'éducation nationale. J'ai un temps partiel subi de 20 heures. J'ai commencé il y a 11 ans à 617 euros par mois. Je suis aujourd'hui à 626 euros. Je me suis renseignée, donc je précise que j'ai pris cet emploi suite à un accident de la vie, comme M. Macron a souvent l'occasion de l'évoquer dans ses discours. Et donc je bénéficie également d'une expérience professionnelle antérieure assez importante. Or, aujourd'hui, je me renseigne sur les possibilités de me former et donc de redéployer un certain nombre de projets au niveau de mon futur professionnel. Et je m'aperçois que rien ne m'est proposé, malgré toutes les démarches que j'ai pu accomplir. Donc, quels sont les projets que vous avez pour les agents comme moi, employés par l'État, avec des temps partiels subis ?
Merci Pascal.
Alors, d'abord, vous soulignez l'importance des AVS. C'est très important.
Les auxiliaires de vie scolaire.
Voilà, j'allais dire,
pour ceux qui ne connaissent
pas,
personnes.
Qui accompagnent les élèves handicapés qui ont des problèmes
handicapés,
lourds.
Handicapés, en difficulté. C'est une personne qui est assise à côté d'eux et qui est avec eux dans la cour de récréation
les aide,
pour les aider.
Sur le plan social, cognitif, psychologique. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet l'inclusion dans l'emploi des élèves les plus en difficulté. C'est
et
pour
Pascal,
ça que mon collègue Jean-Michel Blanquer est en train de mettre en place un plan progressif pour pouvoir titulariser un certain nombre d'AVS.
Pascal, 54 ans, 11 ans d'expérience,
ben
20 heures par semaine, 600 euros par mois.
Voilà. Et bien, c'est pour ça que dans le projet de loi, Madame, je n'ai pas votre solution pour aujourd'hui tout de suite, mais dans le projet de loi, on a mis en place le fait que toutes les personnes qui travaillent à mi-temps, 20 heures par semaine, ou un peu moins, et dont 80% sont des femmes, parce que ce sont des femmes qui sont le plus le temps partiel subi.
Et ça vaut dans le public et dans le privé,
Et c'est vrai dans le public et dans le privé. Qu'elles aient le même droit à la formation, dans le compte personnel de formation, que les personnes qui travaillent à temps plein. Parce que sinon, on est, comme vous le dites, on est dans une trappe, on est à mi-temps, on n'a pas accès à la formation, on est peu rémunéré puisqu'on est à mi-temps. Et donc, comment s'en sortir ? Alors, à court terme, je pense que le sujet, c'est effectivement comment plus d'AVS sont titularisés progressivement. Mais le droit à la formation qu'on va créer, c'est justement pour permettre à chacun de pouvoir rebondir, de pouvoir avoir une promotion, mais aussi changer de vie. Ou quand on est obligé de changer de vie, quand il y a un accident de la vie, et ben rebondir et trouver une autre voie.
8h38, 01, 45, 24, 7000. Soyez le bienvenu, Jacques.
Oui, bonjour.
Bonjour
Madame la Ministre. Je suis employeur. Nous avons beaucoup de mal à trouver du personnel. On n'en trouve pas de personnel qualifié.
Dans quel domaine, Jacques ?
Moi, je suis dans la coiffure. Et dans un deuxième point que je voudrais vous évoquer, j'ai énormément de demandes de rupture conventionnelle par les salariés, qui préfèrent être au chômage qu'avoir des CDI et un travail. Voilà.
Ces personnes qui vous demandent des ruptures conventionnelles, Jacques, vous savez qu'après, elles restent durablement au chômage ?
Oui, et quelquefois, plus grave, elles travaillent à domicile sans être déclarées.
Merci beaucoup de cette question, Jacques. Donc, employeur dans un ou plusieurs salons de coiffure. Muriel Pénicaud.
Oui, ce que vous dites, monsieur, moi je l'entends tous les jours. J'ai rencontré plusieurs milliers de chefs d'entreprise ces derniers mois, de petites et moyennes entreprises. On a un besoin de compétences partout. Et puis il y a le sujet du maintien dans l'emploi. Sur la recherche des compétences, c'est pour ça que l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat a dit que grâce à la nouvelle loi, on pouvait augmenter de 60 000 places les places d'apprentis. Et vous savez que son président est le président de la Fédération de la coiffure également. L'industrie a dit qu'il allait pouvoir augmenter de 40%. Les compagnons du devoir, ils vont doubler de taille. La Fédération française du bâtiment offre 15 000 places pour les jeunes bâtisseurs. Voilà, on a des besoins partout. Et c'est vrai que pendant 20 ans, il y avait le chômage de masse, il y avait une sorte de résignation. Et du coup, on ne formait qu'un demandeur d'emploi sur 10. Donc on a beaucoup de jeunes, de seniors qui sont au chômage, qui voudraient travailler, mais qui n'ont pas les qualifications. D'où la loi et d'où ce plan d'investissement compétences qui nous permet d'en former. Et puis, il y a le sujet que vous évoquez du rapport au travail.
Jacques nous parle clairement de choix du chômage.
Il y a aujourd'hui des règles qui font que parfois, on gagne plus quand on est au chômage que quand on travaille. Ça, c'est pas sain. Et donc, c'est tout ça qu'il faut voir
avec les partenaires sociaux. C'est vraiment beaucoup le cas. C'est vraiment souvent le cas.
Beaucoup. C'est difficile à chiffrer, mais il y a quand même...
Parce que généralement, une allocation chômage est calculée sur le salaire minoré.
Non, c'est plus compliqué. Si vous avez un cumul emploi et chômage, vous pouvez perdre en allant travailler. Évidemment, personne ne va aller travailler s'il gagne moins.
Il vaudrait mieux augmenter les salaires dans ce cas, non ?
Non, mais ce n'est pas un vaste communiqué entre les deux. C'est qu'il y a des règles qui finalement vous incitent à rester dans la précarité toute votre vie. Qu'à un moment donné, il y a évidemment qu'il faut un système de solidarité. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a des règles qui malheureusement encouragent les comportements que vous évoquez, monsieur. Et évidemment, on va pas être dans un pays qui est un des pays riches de la planète, où la croissance, même si elle est modeste, est là. C'est où il y a des offres d'emploi, où il y a des capacités, et avec des personnes pas formées ou qui ne retournent pas au travail, pendant que des employeurs n'en trouvent pas. Donc il faut que c'est l'intérêt à la fois social et l'intérêt économique de progresser là-dessus. Et ça, c'est à l'agenda de la rentrée.
Il y a beaucoup de questions sur franceinter.fr et au standard. On ne pourra pas toutes les prendre, mais j'aimerais qu'on entende Isabelle. Bonjour Isabelle, vous êtes à l'antenne de France Inter.
Oui, bonjour à
tous. Bonjour madame.
Merci pour votre émission qui me régale tous les matins.
Merci.
Donc moi, je travaille comme assistante sociale dans un hôpital. Et jusqu'à présent, nous avions une reconnaissance de la pénibilité parce qu'on travaille avec des personnes malades, qui sont contagieuses. Moi, je travaille en maladie infectieuse, donc il y a beaucoup de tuberculeuses. On a eu des formations sur Ebola, tout ça. Et là, cette reconnaissance de la pénibilité, elle a été décidée la semaine dernière au Conseil d'État de la supprimer. Ce qui fait qu'au lieu de partir 5 ans plus tôt, à 57 ans à la retraite, nous perdons cette reconnaissance de la pénibilité. Bon, sachant que l'hôpital est quand même plutôt assez mal payé par rapport aux autres personnes, pourquoi en fait supprimer cette reconnaissance de pénibilité pour les gens qui travaillent avec des gens contagieux, malades ?
Merci beaucoup Isabelle de votre question. Muriel Pénicaud, on a une petite minute pour conclure sur un dossier qui nécessiterait une émission entière.
Oui, alors c'est un dossier qui est piloté par ma collègue Agnès Buzyn,
oui,
ministre des Santé et de la Solidarité,
direct.
Et Olivier Dussopt, qui est secrétaire d'État de la Fonction publique.
Ce
n'est pas dans le champ dont je m'occupe. Au-delà de votre question, madame, de toute façon, il y a toute la question du travail, de l'organisation, de la reconnaissance, de la qualification, de la pénibilité. Je crois que l'hôpital et ma collègue Agnès Buzyn l'a dit, l'hôpital a besoin vraiment d'une réforme de fond. Un des volets que vous évoquez, il y en a beaucoup d'autres, donc je ne peux pas en dire plus là en deux minutes, mais c'est un vrai sujet.
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, merci d'avoir été
l'invité
du grand entretien de France Inter. Bonne journée.
Bonne journée.